Bah, c'est pas le monde futur, c'est Olam Haba, le monde qui vient, qui est en train de venir, ce monde que nous essayons de préparer. Et celui qui par Shabbat essaie de préparer déjà, de se mettre dans Olam Haba, eh bien sa récompense, c'est qu'il aura droit complètement à Olam Haba. Et alors le Maharal termine son Er Mitzvah par une petite remarque. Le Maharal dit, voilà, je ne sais pas si ça vous a frappé, nous avons ici, dit le Maharal, donc les quatre niveaux de l'histoire.
Comme notre empire.
De l'histoire universelle, de l'histoire de chaque individu, pardon, de l'histoire de chaque individu, dans l'histoire universelle, c'est-à-dire Olam Hazé, ce monde-ci, le monde après la mort, Sriat HaMeissim, la résurrection, et Olam Haba. Mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Voilà. Il manque, on ne parle pas du Mashiach. On ne parle pas du Mashiach. Et le Maharal, bien le Maharal dit, ce n'est pas du tout quelque chose d'étonnant, parce que le Mashiach, c'est dans la Mazé. Le Mashiach se passe dans la Mazé. Et que le Mashiach vienne, cela dépend de nous, et de nous seulement. Le Mashiach, conclut le Maharal, peut venir n'importe quel jour. Le Maharal peut venir n'importe quel jour. Le Mashiach, dit le Maharal, peut venir n'importe quel jour. Il peut venir, et il cite, c'est la dernière phrase du Er Mitzvah que vous n'avez pas, la toute dernière phrase, dans Sanhedrin 98a, Hayom, aujourd'hui, Imbeko lo tishmeu, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, Hayom. Et il conclut, n'est-ce pas, en disant, eh bien, et c'est pourquoi que Dieu nous donne un cœur fort comme la pierre, qui est le cœur de Jacob, de Yissen Toiroso ve Yiruso, et qu'il nous donne sa Torah et la Yirat Hashem, de Libeinu, dans notre cœur, de Yishlar Lonu Moshiach Titkeinu, qui nous envoie le Messie de notre justice, Omein, de Heinyeru Tson Bim Herab Yomeinu, et qu'il en soit ainsi bientôt et de nos jours.
Bien.
C'était terminé.
J'arrivais exactement. Bien calculé. Donc j'enchaîne là où nous étions arrivés, c'est-à-dire au début de la première colonne de la page Kaf Aleph. Alors nous avons vu que le Maharal récapitule la nature du conflit au niveau Chochma Torah, Chochma Enushi, sagesse humaine. Et bien sûr, il faudrait beaucoup d'autres développements pour mettre en évidence les différentes dimensions de ce conflit, mais disons, sagesse humaine, comme nous l'avons défini, succinctement, ça suffit, je crois, pour comprendre ces données. Et d'autre part, Chochma Elokit, c'est-à-dire la différence entre Torah et Chochma Stam, c'est le mot de Elokit. Et nous, j'espère qu'on arrivera encore ce matin à voir des références importantes que le Maharal va citer pour fonder cela. Et nous verrons, j'espère qu'on aura le temps d'y arriver, sinon, rappelle-moi, c'est mon horaire, que la Gemara va se servir avec beaucoup d'humour d'un mot grec pour définir la Ma'ala, c'est-à-dire la supériorité de la Torah en tant que Chochma Elohim. Bien, nous verrons cela tout à l'heure. Mais il y a une deuxième dimension. La deuxième dimension qui se relie avec tout ce que nous avons appris au sujet de la relation père-fils entre Dieu et Israël en particulier. Et c'est le Beit Hamikdash, c'est la relation de sainteté. Là, je me réfère donc au cours que vous avez eu lundi, mardi, mercredi matin, okay, avec toute la discussion sur l'épisode du veau d'or, mais le Sinaï, et comment la Gemara explique qu'il y a un lien particulier, un lien à part, qui est le fait que l'identité Israël est reconnue dans la relation père-fils. Laissons de côté, si vous voulez, ce que le vocabulaire chrétien a fait de ce thème de la relation père-fils, mais ça, j'y toucherai cet après-midi. Et là, ça me donne l'occasion, si vous voulez, de relier ces deux sujets. Il y a le Beit HaMidrash. Ça, c'est la Torah. Il y a le Beit HaMikdash. Et ça, c'est la maison où Israël n'est pas le disciple, mais où Israël est le fils. Vous voyez, dans le Beit HaMidrash, Israël est Talmid l'Ifne Rabbo. tandis que dans le Beth Amikdash, Israël est Ben Lifne Aviv. Vous voyez la différence. Ça nous ramène donc à ce thème. Je vais en profiter très rapidement pour l'élucider, de telle sorte de pouvoir rassembler les différentes études que nous avons. Vous vous rappelez comment la Gemara a expliqué que cette ta'ana, cette prétention, ce procès que les Grecs ont fait, mais derrière les Grecs, disons, tous les humanismes à Israël, en disant, après tout, vous êtes comme nous, et que comme nous, et votre sagesse peut être donc intégrée au niveau d'une sagesse purement humaine, venez de ce que, dès le début de son histoire en tant que nation recevant la Torah, il y a eu l'épisode du veau d'or. Vous vous rappelez de cela? Or, je n'étais pas là ce jour-là, mais oui, c'était jeudi, et non mercredi. Jeudi. Et vous avez étudié donc cette catégorie que Dieu répond dans la Gemara à cette tarana, à ce procès, c'est qu'il y a une relation de père à fils qui relie Dieu comme créateur et Israël comme créature. Je voudrais, pour que ce soit bien clair, commencer par élargir la catégorie. Selon la Torah, toutes les créatures sont fils, mais il y a un fils plus, si j'ose dire, que dans un certain vocabulaire, on appellera le fils aîné. Mais le fils aîné, ça veut dire que les autres aussi sont fils. Parmi toute la créature candidate à être fils du Créateur, eh bien, sur un point, et c'est le point où émerge la sainteté, sur un point a émergé déjà, de façon irréversible, l'identité fils plus. Je me réfère ici à une espèce de formule du slang, comment on appelle ça, l'argot israélien contemporain. Nous sommes tous égaux, mais il y a des égaux plus. Enfin, ça, c'est un peu pour critiquer les pseudo-démocraties. Hein? Dans une démocratie, tout le monde est égal, mais il y a des égaux plus. Égaux, pas en latin, géo, en français, AUX. Mais, je veux dire, c'est cela et pas plus que dit la Torah. Béni, Bechori, Israël. Mon fils est né, Israël. Ça veut dire que les autres aussi sont fils, si on comprend bien la typologie d'une famille. Seulement, il ne s'assume pas comme fils. Je vois comment dire, j'envoie des mots un peu barbares. Ils ne se reconnaissent pas comme fils. Celui qui, le premier, s'est reconnu comme fils, alors, ça veut dire comme créature. Celui qui se connaît comme créé, c'est-à-dire qu'il n'existe que dans la mesure où il a reçu l'être d'un créateur, d'où l'image père-fils. Alors que la position grecque, telle que je l'ai définie tout à l'heure, et j'y reviens pas, c'est de s'assumer comme étant moi l'homme, moi l'être. Et j'y reviendrai sur la deuxième leçon cet après-midi, sur le problème du fondement de l'obligation morale. Comment fonctionne la conscience de l'humanisme? C'est moi qui suis l'être. Dans une sorte de catégorie, je vais employer un terme un peu philosophique, mais en vous l'expliquant tout de suite, un terme qui vient du latin, et qui dit bien exactement ce dont il s'agit ici, dans la catégorie de l'acéité. En latin, c'est acé. J'existe par moi-même. Je ne reçois pas l'être d'une transcendance qui me la donne. C'est ça la grande différence. Qu'est-ce que ça veut dire se reconnaître comme fils? Se reconnaître comme fils, ça veut dire se reconnaître comme créé. Si je n'ai pas eu un père, je n'existe pas. Vous comprenez l'analogie des catégories, hein? Donc, je dirais cet après-midi, quelle espèce de maquette païenne les chrétiens ont fait de cette catégorie, en la prenant d'Israël d'ailleurs, et en faisant une figure mythique. De cela je parlerai cet après-midi. Mais, si vous voulez, la notion qui est là est très importante. Fils égale créature se connaissant comme telle. Et il est très important de voir que dans toutes les mythologies grecques, y compris, il n'y a pas de dieu créateur. Il y a à la rigueur des dieux fabricants, mais pas de dieu créateur. Il y a des dieux fabricateurs, mais le dieu créateur n'est pas connu en dehors de la révélation divine. C'est-à-dire, même si par la suite, on va emprunter le vocabulaire hébraïque, et on va s'adresser à son Dieu, à son Dieu avec un petit dé, à son idole, comme à un père, eh bien, c'est second, c'est absolument dérivé. Mais la notion biblique fait équivaloir à égale créateur, ben égale fils. Et vous l'avez dans le terme baro, qui signifierait en hébreu, et vous savez que se rattache à ce mot baro créé, le mot bar, qui signifie fils, et qui est surtout usité en araméen. Comme par exemple dans bar mitzvah ou bar minan. Non, dans bar minan, bar veut dire en dehors. Comme dans l'arabe bra, dehors. Mais la, cette catégorie qu'emploie la Bible, père, fils, c'est la catégorie créateur, créature. Or, Abraham est le premier qui reconnaît que l'homme a un créateur, que le monde a un créateur. En quoi Abraham est le premier monothéiste? La formule du Midrash est très claire. Hikir et Boro. Il a reconnu son créateur. Il a reconnu premièrement qu'il a un créateur. J'insisterai jamais assez. Parce que la grande différence entre le Hacham de la tradition de la Bible et le Hacham des sagesses humaines, c'est que le Hacham de la tradition biblique se connaît comme créé tout entier, sa pensée y compris. Tandis que sa capacité de penser, sa pensée comme fonction y compris. Tandis que le Hacham des humanismes extérieurs va vous reconnaître tout comme créé, son corps, son âme, tout ce que vous voulez, mais pas sa pensée. Sa pensée, c'est l'être absolu. Et par conséquent, là, il peut y avoir reconnaissance des forces supérieures, il peut y avoir avoda, il peut y avoir culte, il peut y avoir situation de Eved, mais il n'y a pas Ben. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que seul Israël s'est reconnu comme fils, en reconnaissant qu'il a un père. Alors Dieu lui dit, tu es mon fils premier. Les autres aussi sont des fils, mais ils ne le savent pas. Et oui, ils ne le savent pas encore. Est-ce que c'est suffisamment précis? Ça, c'est la catégorie du Bet Amigdash et de la Kedusha. Kedoshim Tiyu, qui Kadosh Ani Hashem Elokech. Et voilà pourquoi les Grecs ont voulu premièrement envahir, investir le Bet Amigdash, le transformer. D'abord, le Bet Amigdash, premièrement, et le transformer en une université, centre universitaire d'études. C'est ça? Vous comprenez l'astuce. La stratégie. Ça, c'est le cheval de Troie. Deuxièmement, c'est au niveau Torah, comme nous avons appris tout à l'heure. Mais deuxièmement, alors là, c'est plus sérieux encore, le Beit HaMikdash, c'est-à-dire la maison de rendez-vous entre le Père et son Fils, si j'ose dire, enfin entre le Créateur et la Créature. Le sujet du séminaire, c'est pas le Beit HaMikdash pour lui-même, mais dans le point de notre analyse, pourquoi, lorsque la purification va se faire, c'est précisément ce qui se passe dans le Beit HaMikdash, au niveau de la Torah en particulier, que la commémoration va se faire et que la commémoration va se réaliser. Rappelle-moi de dire quelque chose à monsieur tout à l'heure. Bon. Alors, je continue. Voilà. Qui, la Torah ou Beit HaMikdash, la Torah et la maison de la sainteté.
C'est toujours 21, Kaf Aleph.
Et voilà, vous m'excusez parce que je voudrais quand même en deux phrases terminer avec le problème de la relation père-fils. Et c'est là que, donc, vous avez appris avec la Gemara jeudi matin que par le fait que Israël est fils par rapport à Dieu, créature liée à son créateur, alors il y a irréversibilité, il y a alliance irréversible, alliance de nature. C'est-à-dire, quelle que soit la conduite au niveau des actes, de ces bnei Israël, qui sont fils de leur Avinu Sheba Shamaim, de Aviem Sheba Shamaim, eh bien, cette alliance de nature qui lie le père à son fils est irréversible. Même.
Pas tout à fait.
Attendez, j'y vais. Mais vous avez les textes sous les yeux, on va voir. C'est-à-dire que même un fils rebelle, c'est un fils. Seulement voilà, comme il est fils par rapport au père, et donc différent en quoi que ce soit, dans cette différence, il peut être rebelle. Mais le fait qu'il soit rebelle n'enlève pas son identité de Saint. Oui, est-ce que c'est clair jusque-là? Bon. Alors, puisque le Fils comme Fils est capable et donné à être belle, la Torah va lui être donnée pour qu'il soit pas seulement Ben, mais aussi Talmid, et aussi Révé. Vous voyez pourquoi la Gemara qu'avait cité le Midrash, qu'avait cité le Ravoutner, pouvait dire « Yafa sikhatan shel avde avot, mitoratam shel banim ». Le Révé, la relation de soumission à la souveraineté est inconditionnelle. Le Révé n'a pas ce danger de se rebeller, parce qu'il n'est pas fils. C'est le fils qui a le danger de se rebeller. Mais le Eved est, lui, Eved d'Avot. Alors que les Banim, dans la relation de Torah, c'est-à-dire de leur Avoda, sont reliés comme Talmid au Rav. Mais c'est donc la catégorie de Av, Ben, qui nous est expliquée par le Maharal, et en nous montrant pourquoi Israël est dans un statut particulier. Il est le seul à être en alliance inconditionnelle et a priori du comportement avec Dieu, mais il est le seul où la rébellion est possible et elle est sérieuse. D'où vient de ce que le Ben se rebelle, c'est lorsqu'il n'est pas encore, c'est un terme qui avait été employé mardi ou mercredi, Hagun, Ben Hagun Leavi, Ben Neeman Leavi. C'est parce qu'il n'est pas encore, comment dire, concilié, il faudrait dire de notre temps, réconcilié avec l'être père qui lui a donné naissance. Je reprends cette analyse parce qu'elle est importante, mais simplement pour conclure, je crois que maintenant c'est clair. Les Grecs vont reprocher aux Hébreux, mais vous êtes de mauvais serviteurs, le veau d'or. Les Hébreux vont lui répondre, mais nous sommes des fils. Hein? Est-ce que c'est clair? Et qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes des fils? Bien sûr, nous nous sommes rebellés en tant que fils, parce que nous n'avons pas, dès le début de notre histoire, la perfection que notre Père souhaite pour lui. Mais il n'y a que nous qui l'aurons, et ceux qui s'adjoignent avec nous. J'ajoute toujours.
C'est où Ken?
Anochi, c'est la relation Père. Et, Anochi, c'est la relation Eve. Ken,
voilà.
C'est juste.
S'il n'y avait que la relation du Fils qui peut, à ce moment-là, ne plus se reconnaître comme fils, il y a une brèche ouverte.
Oui, mais je crois que c'est important que nous dialoguons. Parce que là, il y a un point extrêmement
c'est
important.
C'est Marin qui le dit, c'est
oui, non, c'est sûr. Que tu mettes en évidence l'aspect que j'aurais peut-être trop à négliger. Parce qu'il a un problème d'engagement contemporain. Quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Israël dans la relation Ben-Av? C'est la nation. Et qui est membre de la nation d'Israël est dans la relation Ben-Av. Est-ce que c'est clair ça? Okay. Et seule cette nation va recevoir la Torah. En tant que nation, elle peut apparaître comme rebelle, et par conséquent, il faut la Torah pour que le Ben soit Hagoun. Et dans la relation à la Torah, le Ben est aussi Révé. Voilà. Voilà ce que l'ordre de l'explication de la Gemara est ainsi. Gamel et Tishkachna, c'est votre erreur, votre faute. En tant que fils rebelle, Ve'anochi lo eshkacher, c'est le fait que c'est à vous, les fils, et pas à d'autres, que j'ai donné ma Torah de Adon Eved, de Melech Eved. C'est là qu'il faut comprendre, on n'en sortira pas. Hier après-midi, déjà, nous avons eu ce thème à la synagogue, et c'était, vous vous rappelez, le Asher. Yehuda Yosef, non, pas exactement cela. C'est sur la formule même du texte que nous avons étudié vendredi soir, la différence entre Asher Bachar Banu Mikola Amim ve Natan Lanu et Torato. Asher Bachar Banu Mikola Amim précède ve Natan Lanu et Torato. Et le Asher Bachar Banu est irréversible.
Voilà.
Okay.
C'est exactement. C'est-à-dire, dans la mesure où on est que fils, il y a une possibilité, donc il y a une dialectique mérite et démérite,
oui.
Dans la mesure où on est rattaché à Onori, c'est-à-dire où ça ne dépend pas, quoi que fasse Israël, comme disait M. Gordin, le juif nu est la seule garantie de salut du monde, c'est-à-dire avec ou sans Torah, le juif en tant que tel est irréversiblement attaché au Onori. Dieu décide, je suis Dieu, et j'ai décidé qu'il en est ainsi, et le choix que j'ai fait ne dépend plus de vous. Maintenant, dans la façon de vous situer par rapport à moi, il y a possibilité de faute. Et là, les Grecs pouvaient entrer. Parce que c'est au niveau toujours déterministe. On le disait pendant que tu n'étais pas là. Par contre, à un niveau qui n'est plus déterminé, Et là, les Grecs n'avaient pas compris qu'il y avait impossibilité pour eux de faire une faille en Israël.
Alors, je voudrais ajouter quelque chose d'important. Ce n'est pas du tout une suspension de la morale. Ce n'est pas du tout un arbitraire. C'est Dieu qui impose ce choix à Israël, mais ce n'est pas n'importe qui l'a choisi. Il y a une identité préalable qui fait que c'est toi que je choisis. Est-ce que c'est suffisamment clair? Il n'y a pas du tout là élection arbitraire de type...
J'avais cité ton enseignement sur le viol par Dieu d'Israël.
J'avais
cité l'autre chose.
Je peux le rappeler. C'est ce qu'on appelle l'élection d'Abraham. Dieu choisit Abraham. Je crois que nous en avons parlé au dernier séminaire.
C'est ça, de la Torah.
Oui. Dieu choisit Abraham. Mais ce n'est pas n'importe qui, Abraham. Abraham était le premier qui était prêt à choisir Dieu. Alors le raisonnement est un peu comme cela. Ah, tu vas me choisir? Bon, je te précède, c'est moi qui te choisis. Comme ça, c'est absolu et irréversible.
Même
parce que si c'est toi qui me choisis, eh bien, aujourd'hui tu me choisis, demain tu ne me choisiras pas. C'est clair. Donc l'alliance entre Israël et Dieu, elle est irréversible parce que c'est Dieu qui l'impose. Mais à qui Dieu l'impose? À qui était prêt à la recevoir?
Et ça, les hommes ne comprennent pas.
Tout simplement parce que notre histoire est si longue qu'on ne se rend pas compte que nous sommes les mêmes êtres à qui c'est arrivé. Non, il y a une Kéva aussi. D'autant plus que, comme vous le savez, la filiation, c'est par la mère. Alors en plus...
Donc c'est ça le préalable.
Bien sûr. C'est pourquoi d'ailleurs dans la... Oui, je sais, mais... Oui, je sais, c'est un court circuit. Non, mais ça fait 3 ans que dure. Mais dans la Gemara que vous avez étudiée, ce n'est pas pour rien que la Gemara prend l'exemple de la relation de la mère au fils. Voilà. Gamel et Tishkar, Atishkar, Isha'ullah, Merahem ben Bitna, Gamel et Tishkarna, Venochi, Loeshkacher. Dieu parle comme une mère. Okay. Bon, parce que, je sais pas, peut-être j'ouvre une toute petite parenthèse encore, mais je vais me faire incendier. C'est pas grave. Nous disons Rahamenu kerachem av albanim. Nous disons dans la tfila Rahamenu et miséricorde et pitié, qui est le sentiment du rachem, de la matrice. On devrait dire kerachemet im albanim. Pourquoi nous disons Rahamenu kerachem av albanim? Il y a ici un paradoxe. Alors là, la tradition enseigne, c'est pas le sujet, je vais être bref. La tradition enseigne la relation de miséricorde, elle est celle du père. Mais la relation de consolation est celle de la mère. Que em asher, que ish asher tenahamenu imo. La mère est menahemet, consolatrice, alors que le père est miséricordieux. Bon, c'est un sujet pour lui-même, et je reviens au texte. J'ai fini donc avec cette distinction. Le Beit HaMidrash, c'est la relation de Torah, elle est Elokit. Le Beit HaMikdash, c'est la relation Ben-Av. Et c'est là que les Grecs vont s'installer pour couper cette relation Ben-Av. Alors, en avant. Pourquoi 8? Et quelle relation avec ces 8 jours institués par les Maccabées? Alors, pour avancer dans les références, vous allez prendre maintenant la page Kafbet.
Dans les lignes qui vont... Colonne de droite. Voilà. Colonne droite soulignée.
Colonne de droite, les premières lignes qui vous sont sous vous.
Ça rapporte le ménage, je pense.
Oui, on y va. Très bien. Ok.
Monsieur Prince, vous avez l'air en contradiction parce que Monsieur Prince a dit que Baha, c'était ce qui faisait que cette liaison était irréversible. Et vous avez dit que c'est la liaison père-fils qui faisait que même si on remettait, si on remit l'autorité du père, on restait le fils quand même.
C'est la même chose qu'on a dit. C'est la même chose qu'on a dit. Vous avez peut-être entendu un accent différent. Hacher.
Pas sûrement. Hein? Un accent ashkenaz, des accents parades.
Mais on va réconcilier les accents à Sion. C'est ce qu'on appelle l'accentuation.
Voilà.
Mais Hazak. Écoutez, Hacher bahar banu mikola amim, c'est béni bechori Israël. Hacher bahar banu mikola amim, c'est la relation père-fils. Benatan lanu et torato, c'est elle qui l'a authentifié, qui la rend. Parfait, qui la rend authentique. Par conséquent, comprenez bien une chose, il faut pas. Je vous remercie de poser la question, que ce soit bien clair. On me cite souvent cette Gemara qui dit Israël, Afralpi Shehata Israël Hu. Israël, même si la faute c'est Israël. Et ça, ça va dans le sens. La relation fils est irréversible. La nation. Oui, mais qui a donné le droit à qui de fauter? Vous comprenez? Il faut quand même aller jusqu'au bout de l'évidence. Okay? Mais c'est un Israël fauteur. Comme il y a des juifs enrhumés, il y a aussi des juifs athées. Il y a des juifs enrhumés. Ils sont juifs, mais enrhumés. Non, je voudrais bien qu'il y ait, qu'on entende les deux choses à la fois. Okay? Alors, quand je vous dis, un juif est juif de façon inconditionnelle, il est dans l'alliance que Dieu a choisie. C'est pourquoi. Et nous savons un peu, grâce à la Torah, nous connaissons les engendrements depuis le premier homme à travers Abraham. Nous savons pourquoi Dieu a choisi ce peuple et pas un autre. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, c'est pas arbitraire. Il y a si longtemps qu'on n'entend pas les prophètes qu'on croit que c'est arbitraire et qu'on parle comme des Grecs. Vous comprenez ce que je veux dire, okay? On croit que c'est un Moira. On croit que c'est un Goral. On croit que c'est que Dieu joue au dé. Ça, c'était pourri. Enfin, qu'il tire les sorts. C'est encore pourri, vous allez voir. Bon, enfin, vous avez compris. Okay? Pas du tout. Ça, ce sont les théologiens chrétiens et les plus orthodoxes d'entre eux qui ont parlé de cela à la manière grecque, que Dieu a choisi Abraham comme un pêcheur pêche à la ligne. Il m'en faut un, c'est celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une grâce arbitraire. Pas du tout. C'est pas du tout la mentalité juive. Pourquoi la Torah, avant de se donner comme loi, nous fait la généalogie du premier homme à travers Abraham jusqu'à Abraham, Isaac, Jacob, nous, Israël? Elle sait pourquoi. Dieu sait pourquoi il a choisi cette manière d'être homme et pas une autre. Et on peut expliquer. Mais là, alors la Gemara nous dit, Israël, Afralpi Shehata Israël, Kol Israël, Yeshem Hedek La'olam Haba. Donc, j'y arrive. Mais ça donne l'autorisation à personne d'être un Israël fautif. Et la notion de faute est par rapport à Venatan Lanou et Torah. Donc, nous sommes pas des fils potentiels, putatifs. Non, nous sommes les fils réels. Mais un fils réel peut être en état de rébellion. Et je vous dirai plus, seul un fils peut être en état de rébellion. Un Eved n'est pas en état de rébellion. Dès qu'il se rebelle, il n'est plus Eved. Gamarnou, il est sorti. Un chrétien qui ne croit plus dans ces histoires n'est plus chrétien. Et c'est fini. Tandis qu'un juif qui n'est pas Eved authentique, qui n'est pas soumis à la Torah, reste juif. Seul, c'est une catégorie radicalement différente. Mais j'ajoute, ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'être enrhumé. Ça y est, c'est clair? Bon, voilà, là nous sommes retrouvés. Simplement, il y avait peut-être une question d'accent. Et c'est pourquoi Dieu répond par Anochi en disant, je sais que ce sont des fils authentiques, puisque quand je leur ai proposé la Torah sous peine de mort, ils ont dit, nous acceptons, nous sommes tes enfants. Et ça, j'oublie pas. Non, c'est Benishma. Et il leur a proposé la Torah sous peine de mort. Il dit, vous êtes mes fils, il n'y a qu'à vous que je donnerai la Torah pour l'humanité entière, à travers X médiation. Mais, ils ont dit, nous sommes prêts, tu es notre père, tout simplement, pourquoi on te voit si peu? Alors là, il y a un midrash dans le Zohar sur Shir HaShirim qui est très joli, quand la bien-aimée dit, elle dit, mais où il est? Et alors les autres disent, mais où il est, au fait? Hein? Alors elle répond finement, Dodi Yarad le Gano, la fin du verset me revient, mais il me manque trois mots. Dites-moi, Shir HaShirim, Dodi Yarad le Gano, ça finit par Velil Kot Shoshanim. La Arugot, ta boîte, non? C'est pas ce verset, justement, d'accord. Dodi Yarad Gano. Bon, ça veut dire, on va le retrouver. Ça veut dire, mon bien-aimé est descendu dans son jardin pour cueillir les roses. C'est la fin du verset, pour cueillir les roses. Et le Zohar explique, qu'est-ce que c'est que ces roses que Dieu cueille? Alors, Israël répond aux autres, quand les autres demandent, mais où il est ton Dieu? Il dit, ben voilà, il est occupé à cueillir les justes partout où une rose pousse, partout où ils sont. C'est le temps où il s'occupe des jardins des autres. Je ne vous rappelle plus, c'est Vous comprenez le. Vous trouvez avec une concordance le verset. Dodi Yarad Legano, l'Irot Baganim, Venil Kotchushan. Pour être le berger des jardins, c'est joli ça, l'Irot Baganim, être le berger des jardins, Venil Kotchushan, et cueillir les roses. C'est pourquoi il n'est pas à la maison. Mais il est occupé à me préparer le bouquet. Donc, vous avez vu le verset. Le Zohar explique comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire des roses, là, pour dire des justes? Qu'est-ce que ça veut dire des roses? Mais alors, il y a toute une histoire. Alpikre, Shoshanim, Elashesh, Shanim. Ne lis pas des roses, Shoshanim, mais six années. Qu'est-ce que c'est que six années? C'est les 6000 ans de l'histoire, puisque le monde a été créé en six jours. Vous voyez juste où ça va. Pendant tout le temps de l'histoire, où Dieu est dans les jardins pour cueillir les roses. Et pourquoi les justes, on les appelle les roses? Parce qu'il y a deux midotes qui font le juste à la fois. La mida de la chesed, de la charité pure, elle est blanche. La mida de din, de la rigueur, elle est rouge. Mais le rose, c'est ça le vrai sadique, quand il y a les deux à la fois. Joli. Et alors, et ça prend 6000 ans pour cueillir les roses. Je ne sais pas si Israël va devenir exportateur de roses spécialiste, mais ça commence d'être. Donc, je dois vous dire que, en réalité, la Shoshana du Cantique des Cantiques, ce n'est pas la rose.
C'est pas une rose.
La rose, c'est, ça me revient en arabe, c'est Vered, Word. C'est Vered, la rose. Mais c'est quelque chose comme un lys. Non, pas un lys.
C'est lys, oui.
Un lys,
c'est le lys.
Tu as trouvé?
Non, je ne sais pas.
En tout cas, voilà, c'est Dodi Yarad Legano, Livkot Shushan, Lirot.
Voilà, c'est le chapitre 6.
Voilà, très bien. Eh bien, il y avait aussi ta phrase. La Arugata Bosem, Lirot Baganim, Venilkot Shushan. Chapitre 6, verset 2.
C'est ça.
Voilà. Et alors, juste une minute, et qu'est-ce que c'est maintenant le jardin? Gan. Alors là, il y a un petit diouk des kabbalistes. Gan, c'est les initiales de Gouf et Neshama. Une personne humaine, elle est elle-même ce jardin-là, parce qu'elle a un corps et une âme. Gan, vous voyez? Et alors, voilà ce qui se passe. C'est que au pied du Sinaï, et beaucoup de Midrashim l'indiquent, au pied du Sinaï, se fait un dévoilement. Dieu se révèle et leur dit, je suis là. Ne croyez pas, vous êtes dans l'histoire du monde. On a rendez-vous à la fin, mais je suis là. Alors ils ont dit, tu es là, il n'y a pas de problème. Si tu es là, Naase Benishma. Nous serons des fils bien, des fils talmidim, des fils élèves. Okay? Mais la relation fils est irréversible. La relation talmide peut être atteinte, mais seuls les fils peuvent être ces talmidim. C'est la raison pour laquelle il y a la nécessité de la teshuvah. Enfin, c'est un autre problème. Seul le fils peut se repentir, etc. Et il y a là, si vous voulez, cette conviction absolue que l'alliance entre Dieu et Israël est irréversible et inconditionnelle, qu'aucun homme ou femme, je veux dire, d'en dehors d'Israël, à travers les siècles et les millénaires, n'a jamais compris. Jamais compris cela. Et que, malheureusement, souvent, des juifs, hellénisés donc, eux aussi arrivent à ne pas comprendre. Bien, oui, tu as une question?
Pour bien comprendre l'esprit de Hanouka, c'est une commémoration d'un événement extrêmement violent. C'est qu'en tant que juif, nous devons quand même assurer dans une perspective de paix. Alors, il me semble que, à partir de tout ce que tu as dit, j'essaie de comprendre En tout cas, au départ, il y a un malentendu. Donc, à partir de ce que vous avez dit, monsieur, en ce qui concerne le déterminisme dans la pensée grecque et l'absence de déterminisme dans la pensée juive.
Je n'ai pas parlé d'absence de déterminisme. J'ai dit que les Grecs ne pourraient pas dépasser le déterminisme. Mais la pensée juive l'intègre. Seulement, elle va plus loin. Non, mais je n'ai pas dit ça.
Après, il me semble qu'à partir des quatre exemples que vous avez pris chez le Maharal, les Grecs pourraient parfaitement comprendre la notion de déterminisme, puisque si on met les nouveaux, on aura une grande maison, si on allume les nouveaux de Hanouka, on aura des enfants qui sont admis par Hanouka. C'est quelque chose qui est aussi de l'ordre du déterminisme. Deuxième élément, il me semble qu'il y a quelque chose qui reste aussi de l'ordre de la guerre irréductible entre les deux identités, pour parler comme Jean Ashkenazi, c'est ce que vous avez dit à propos de la création. Il me semble que c'est là le point central. Prenons par exemple l'exemple de. À mon avis, même pas un débat entre Israël et la Grèce, c'est plus profondément un débat entre la Grèce et l'Égypte, entre Israël et l'Égypte à travers la Grèce. Prenons l'exemple d'Alexandre.
D'Alexandrie.
Alexandre le Grand, qui avait comme précepteur Aristote. Donc quelqu'un qui était aussi dans l'ordre de la connaissance. Son premier geste lorsqu'il est descendu en Égypte, c'est au temple de Memphis, c'est roi païen. Et je crois que là, entre les Juifs et les Grecs, il y a encore quelque chose qui est irréductible. Il faut voir comment ça se transmet dans le monde politique contemporain. Troisième élément, il me semble que peut-être les Juifs devraient faire un pas vers les Grecs, je veux dire, en le mesurant très intelligemment. À propos de la relation perfide, c'est que pour les Grecs, la relation perfide, c'est une relation qui est extrêmement dangereuse. Le père, c'est celui qui tue le fils dans la tradition grecque. Et peut-être que cet après-midi, Léon Ashkenazi va en parler à propos de Nice. Le père, c'est celui qui tue le fils. Et il me semble que le juif devrait essayer de faire comprendre en quoi la relation perfide peut être une relation d'amour.
Oui.
C'est quand même une transformation anthropologique très profonde.
Exactement, et ce n'est possible, si je peux répondre ponctuellement là, ce n'est possible que quand le Grec devient juif. Parce que c'est ça, devenir juif. Et d'ailleurs, justement, mademoiselle avait posé la question il y a deux ans, la relation entre Akedat Yitzhak et le Ehud. Dans la psyché.
C'est plus grave que ça, n'est-ce pas ?
Bon, mais c'est là que nous avons les exemples.
C'est le premier père dans la mythologie grecque, qui se vautre sur la création, qui l'empêche d'énerver.
Par exemple, dans le mythe de Chronos.
Oui, qui se vautre sur sa création.
C'est exact.
Qui l'empêche d'énerver.
Bon, alors, c'est pourquoi je vous l'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure. Malheureusement, nous avons peu de temps, et c'est pourquoi on se télescope. Et puis on n'est pas toujours tous là à toutes les études, c'est ça qui est un peu difficile, mais ça fait rien. Il vaut mieux un peu que rien. C'est ça, c'est que au-delà du raisonnement, de l'intelligence, de la rationalisation, okay, il y a une âme différente. Ce que j'appelle âme ici, il faudrait prendre des heures pour recoder le vocabulaire avec celui des psychologues, psychiatres, anthropologues, ethnologues contemporains, mais disons âme de façon très générale. Et il y a une manière d'être homme, je dirais, dans mon vocabulaire, une manière d'être homme différente. Nous sommes des Hébreux. Et les Hébreux ont précisément, entre autres, cette relation au Père qui est céleste, comme on dit ça en français, qui est
en ordre.
Ça ne veut pas dire que dans l'existence, que dans la vie de tous les jours, un père juif ne peut pas être candidat à une des averos grecques, qu'un père juif ou une mère juive ne peut pas devenir père autoritaire, mère possessive, etc. Ça se soigne. Mais l'identité profonde... Non, c'est vrai, ça se soigne. Okay. Mais l'identité profonde de l'hébreu s'est reliée dans cette catégorie. Le premier hébreu s'appelle Abraham. Une des plus belles prières juives, c'est Abrahami. Et dans l'islam, il y a le pressentiment de cela. Lorsque l'islam formule la catégorie, la tribu du Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim, et nous entendons la relation hébraïque. Alors qu'effectivement, la relation fils-père, comme tu l'as dit très excellemment, elle est obscurcie, enfin elle est noire dans la psyché grecque. Alors moi je répondrai très simplement comme ça. C'est que c'est ça la conversion profonde à l'identité humaine, originelle, qui en fin de compte dans l'histoire a émergé comme hébraïque. La généalogie biblique ne commence pas à Abraham, elle commence à Adam Arishon. Okay? C'est le fait de mettre en ordre cette relation créature-créateur. Et ça veut dire que le grec guéri de ce complexe devient juif. Là, ça a été bloqué par le christianisme. Et vous savez que le christianisme, dans son mythe, de Dieu le Père et Dieu le Fils, a refait faire le même meurtre au Père contre le Fils étant Israël pour prendre toutes les précautions qui disparaissent. Okay?
Vous voyez à peu près la même chose. Mais on y reviendra cet après-midi. Alors c'est pourquoi je te réponds un petit peu comme rabbin, cette fois.
Oui, mais moi,
j'ai pas terminé, s'il vous plaît. Ma conviction est que il n'y a pas de paix possible sur ce point-là, parce que c'est la morale qui est en jeu. Parce que c'est la conception de la morale qui est en jeu, et donc de la politique, et donc de l'histoire. Et qu'il y a une seule issue. C'est que le grec soit grec au niveau de la sagesse humaine, lorsqu'il fait les mathématiques. Et c'est son travail légitime, je reviens à toutes les analyses précédentes, mais que dès qu'il parle des choses, du sujet, des problèmes du sujet, de la personne, de l'âme, il ne peut être que heureux. Sinon, c'est la catastrophe. Voilà pourquoi cette... dans ta première question, je n'ai pas très bien compris. Si tu voulais dire la paix entre les Juifs et les Grecs, ou aujourd'hui en Israël, la paix avec les ennemis des Juifs.
Il me semble que le problème, ce n'est pas tellement un problème de philosophie ou de problème intellectuel. À partir des exemples pris par M. Prince, comme de votre nom, la notion de déterminisme, de causalité peut être intégrée par les deux cultures. Il me semble que
ça dépend dans quelle nouvelle.
Voilà, ça dépend. Voilà. Alors, si vous voulez, il y a un élément que j'appelle traumatique, il y a un élément pervers. L'élément traumatique, c'est que pour le grec, la relation perfide est une relation dangereuse. L'élément pervers, c'est que le grec est tenté, à un moment donné, de récuser ce dieu, que j'appelle la conduite d'antériorité, ce dieu qui est en terreur, parce qu'il veut être. Et c'est le cas tout à fait précis d'Alexandre, qui avait à côté de l'incarnation de la raison, qui rejette cette incarnation de la raison justement en Égypte, pour se sacrer du même Dieu, identifié au Dieu égyptien.
Il y a un Midrash, juste une phrase, il y a un Midrash dans la Gemara qui nous la
référence.
Lorsque Alexandre a rencontré Shimon HaTzadik, lorsque Alexandre a rencontré Shimon HaTzadik, il a dit bénis le Dieu de Shimon HaTzadik. Mais il n'a pas parlé du Dieu créateur.
Oui, c'est dans Vaïkra Rabba 13.5.
Voilà. Eh bien, c'est ça. Et alors là, je crois qu'il y a eu un écran qui a faussé tout cela. Depuis l'apparition du christianisme, il n'y a pas de relation saine entre juifs et grecs. Parce qu'il y a eu cet écran de ni juif ni grec, ni homme ni femme, enfin tu connais Saint Paul, et qui a mythifié l'identité hébraïque. De ça, nous parlons cet après-midi plus en détail.
Oui, simplement, si vous étiez là aux séances mercredi et jeudi. Non, c'est pour ça si vous. Non, mais si je dois y revenir simplement ou non, je voudrais répondre seulement sur un point, je pense, qui suffira à compléter ce qu'a dit Rav Ashkenazi. Bien entendu, la pensée juive connaît et reconnaît le déterminisme. C'est par l'intermédiaire des lois de la nature que se fait, l'histoire dans un dialogue entre Dieu et Israël. Mais à la différence avec la pensée grecque, ce déterminisme est compris dans un monde créé. Et ça, les Grecs ne le comprennent pas. Je cite simplement la première phrase de l'article de M. Gordin que je vous ai donné comme référence l'autre jour, qui vient de reparaître dans le numéro 2 de Dagesh, judaïo-hellénisme. M. Gordin commence par une phrase toute simple. La pensée grecque reste étrangère à l'idée d'une création absolue du monde à partir du néant et à l'idée de la providence divine concernant l'homme individuel et concret. Bon, avec cette phrase, je crois que j'ai répondu à votre question en ce sens que, lorsque la pensée juive parle des événements déterminés, c'est à l'intérieur d'un monde reconnu comme créé par un Dieu créateur, ce qui n'est pas ça, la pensée.
La perversité, je vais avoir la parole tout de suite, la perversité grecque a encore une autre dimension et d'autres. Tu te rappelles certainement, lorsque les premiers Grecs ont rencontré cette affirmation juive, hébraïque, il y a un créateur, il y a une providence, ils ont dit les juifs sont fous. La folie du juif. Parce que par rapport à la raison, c'est du délire. Hein? Mais c'est clair. Mais n'oublions pas que nous nous trouvons dans un temps d'histoire où la révélation a cessé partout. Et c'est pourquoi nous, etc. Bien. Elle serait cathartique. Vous comprenez, c'est paternaliste.
J'ai l'impression qu'on a déjà parlé de ça, il y a une notion très importante, très racine malheureusement. Et je vais revenir à quelque chose que quelqu'un vous avait connu, c'est un certain nombre de votre formation, et à cette question que vous avez posée, vous avez répondu à l'exemple d'un cours pour une situation assez antipa. Alors la question que je vais vous poser, effectivement, c'est que la personne avait observé une différence entre dans la position de l'auteur dans l'église. C'est-à-dire que quand il avait la femme de son pharaon en face de lui, c'était très dangereux pour son duel. Alors que quand il avait le pharaon en face de lui, c'était une relation de l'église. Et vous avez répondu à ça, quelque chose d'important qui paraît tout à fait important.
Et c'était quoi? J'avoue que moi non plus, dans l'instant.
Non, le risque avec les nazis, c'est que lorsque la civilisation égyptienne demande à Joseph de venir pour rendre une civilisation qui est stérile, pour féconder cette civilisation, à ce moment-là, il y a risque.
Non, j'avoue que je ne me réponds pas, je me rappelle pas, mais je vais essayer de répondre quand même. Ah, très bien.